Je vais demander à Brice Dubat de nous rejoindre pour un deuxième papier, donc du savoir-faire au savoir-être. Donc, il nous manque le faire savoir, et donc on aura bouclé la boucle sur ce qu'il faut pour que ces gamèdes soient un lieu d'où ce qui est dit peut sortir au-delà des murs, du savoir-faire au savoir-être. Donc, Brice Dubat, qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication, et qui nous vient de Valenciennes.
Merci, bonjour à tous. Comme ça a été dit, je m'appelle Brice Dubat, je suis doctorant en troisième année de doctorat donc en sciences de l'information et de la communication avec comme directeur de thèse Philippe Bouquillon, et je travaille essentiellement sur les mutations de l'industrie du jeu vidéo et des pratiques des joueurs. Et cette thèse est financée par le studio de développement CCCP, qui est basé à Valenciennes, et pour qui je travaille donc depuis 2 ans maintenant en tant qu'assistant commercial et marketing, donc sur notamment tous les projets de Serious Game. Juste pour présenter un petit peu rapidement CCCP, ou que vous ne nous connaîtriez pas, donc on est une quinzaine de salariés, on est spécialisé en Flash et Unity, on fait énormément de Serious Game, ça fait 8 ans qu'on existe, et c'est un studio qui a commencé le Serious Game dès 2005. Le premier projet du studio était un Serious Game qui était en rapport avec le domaine de la santé justement. Mais on a toujours eu la double activité, à savoir qu'on fait Serious Game et jeux vidéo. Ça va être un point relativement important par rapport à ma présentation, puisqu'on part du principe que notre expérience dans le jeu vidéo nous permet justement d'alimenter tous nos projets de Serious Game. On a notre actif une vingtaine de jeux vidéo, alors qui vont les premiers jeux que nous avons faits, c'était des jeux flash pour des sites internet. On a fait beaucoup de casual games, et puis maintenant on est sur le marché du social games, donc les jeux sur les réseaux sociaux type Facebook. Et puis on a eu plus de 40 projets de serious game de manière très large. Donc dans le serious game, on inclut également les advert games. On travaille pas mal dans le cadre avec des agences de communication sur des jeux promotionnels. Notre produit le plus important dont vous avez peut-être entendu parler, notamment si vous étiez là l'an dernier, puisque j'avais présenté ce Serious Game ici même, c'est Ludomédic. Ludomédic, à la base, c'était des jeux pour expliquer les parcours de soins aux enfants, donc l'IRM, la chimiothérapie et la chirurgie pédiatrique. Aujourd'hui, c'est un site internet qui a pour vocation de regrouper des Serious Games dans le domaine de la santé, alors qu'il s'adresse soit aux enfants, aux adultes, aux seniors, mais également aux professionnels. On a différents produits là qui vont arriver d'ici la fin de l'année, notamment Diagnostic en urgence, qui devrait enfin sortir, ça fait un moment qu'on en parle, mais qui est destiné à la formation des étudiants en médecine, à l'apprentissage au raisonnement clinique, qui sera disponible donc en version démonstration gratuitement avant la fin de l'année. Et puis d'autres jeux, notamment pour les seniors, pour de la réhabilitation respiratoire, un outil qui va leur servir à garder la motivation pour faire des exercices quotidiens, pour les aider dans le cadre de leur thérapie. Donc voilà. Dans le cadre de cette présentation, donc qui s'appelle du savoir-faire au savoir-être, l'idée de base, c'était qu'on s'est rendu compte avec nos clients et les différents prospects qu'on a pu avoir ces dernières années, notamment cette dernière année, que de plus en plus des entreprises, des professionnels ou même des associations du domaine de la santé venaient avec des problématiques qui ne concernaient plus simplement une transmission de savoir. C'est-à-dire, des procédures, des informations, de l'éducation pure, dirons-nous, mais avec des problématiques de comportement. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à trouver dans le Serious Game un outil qui va leur permettre de façonner, ou en tout cas faire comprendre aux utilisateurs qu'ils doivent suivre un certain comportement. Dans le cadre de la santé, je reviendrai sur cet exemple, mais on travaille actuellement on a commencé à travailler avec le CH de Montreuil sur des problématiques d'hygiène, à savoir qu'ils se sont aperçus que les soignants, mais même les patients et leur entourage, avaient très bien intégré toutes les problématiques liées à l'hygiène dans le cadre des chambres stériles, mais avaient pour certains énormément de mal à les appliquer. Et ils cherchaient donc un moyen, parce que quand ils testaient les connaissances étaient là, c'était simplement que les gens, ben, sur le moment, n'avaient pas le réflexe forcément de les appliquer, n'en voyaient pas nécessairement l'intérêt, et comme beaucoup de personnes d'une manière générale, quand la personne ne voit pas d'intérêt à faire quelque chose, il ne la fait pas. Donc pour ça, on a commencé à réfléchir, nous, de notre côté, à comment on pouvait faire un serious game qui allait s'attaquer justement à ces problèmes de comportement, et non plus simplement à transmettre une information. Pour ça, on est un peu revenu à la base de ce qu'était le serious game pour nous. Alors, ce que je vais présenter, c'est pas exhaustif, c'est nous, notre vision à CCCP du serious game. Déjà, il faut savoir que serious game, pour nous, c'est vraiment un outil qui va s'insérer dans un dispositif de formation. Un serious game indépendant ne résoudra absolument pas tous les problèmes. En général, il n'en résoudra aucun. Il faut vraiment que ça soit dans un dispositif de formation dans le cadre de la formation, mais dans un dispositif médical dans le cadre d'un serious game thérapeutique ou d'éducation thérapeutique ou d'accompagnement. Il peut être joué en autonomie ou sur un dispositif en présentiel avec un formateur, un aide-soignant, peu importe, un thérapeute. Ce qui est très important pour nous, et c'est là-dessus qu'on se bat, c'est que c'est un jeu vidéo. Alors, Julien a dit tout à l'heure que Serious Game, ça pouvait être effectivement d'autres jeux. Oui, je reviens absolument pas là-dessus, sauf que chez CCCP, on fait du jeu vidéo. Donc, quand on nous demande de faire un Serious Game, nous, on fait un jeu vidéo. Et là où on met en avant le fait que c'est un jeu vidéo, c'est parce qu'on a énormément de demandes qui, au final, quand le client arrive, il veut un serious game. Et puis, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'un serious game, dans sa tête, en fait, c'est juste mettre de jolis graphismes et des animations sur un PowerPoint qu'il a déjà. Nous, c'est vraiment pas comme ça qu'on raisonne. C'est qu'on va vraiment essayer de créer un concept de jeu qui est lié à l'objectif. Mais pour ça, il faut que l'objectif soit clair et il faut qu'on nous laisse créer un jeu derrière. Un serious game qui n'a pas de mécanique de jeu derrière, à notre sens, n'est pas un serious game. Autre point qu'on met en avant, la simulation ne doit pas être un automatisme. Pareil, on a énormément de clients qui vont arriver avec l'envie vraiment de faire un jeu vidéo, qui pour le coup vont avoir vraiment travaillé là-dessus, et puis au fur et à mesure de la phase de pré-production, on va s'apercevoir que toutes leurs demandes, tous leurs choix, que ce soit au niveau des graphismes, au niveau du scénario, va s'orienter de plus en plus vers, on va calquer la réalité, c'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise qui va arriver avec une problématique, qui va nous dire, voilà, j'aimerais que mon management bosse sur tel problème, je veux un serious game qui résolve ça, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Donc on lui propose un scénario, des personnages, des aventures, etc. Ah oui, c'est bien, mais quand même, ça serait bien, là, ça se passe dans la montagne, ce serait bien que ça se passe dans mon entreprise. D'accord, on le fait passer dans l'entreprise. Ah, puis les aventures qui arrivent, là, c'est pas très réaliste, ça serait bien que quand même il fasse ce qu'il fait tous les jours, quoi. Il va remplir des papiers, aller à la photocopieuse et puis faire le café. Et on arrive comme ça à un jeu qui reproduit exactement le schéma classique de la journée de travail de l'employé. Et pour nous, c'est s'éloigner complètement de l'objectif initial. L'objectif doit être servi par le jeu, c'est pas le jeu qui doit être assujetti à l'objectif. Un point aussi important, les QCM, c'est une source probablement d'énormément de débats, c'est pas probablement, je le sais, j'en fais partie de débats entre les acteurs du serious game. Les QCM peuvent faire partie des serious games. Nous, on les utilise exclusivement dans le cadre de l'évaluation. Un serious game, c'est pas de la transmission de messages. Quand vous jouez au Trivial Pursuit, qui est une forme de QCM, vous allez tester vos connaissances. Vous allez pas les apprendre. Vous les apprenez peut-être après en effet collatéral, mais la majeure partie du temps, tout ce que vous faites, c'est tester vos connaissances. Et enfin, dans un jeu vidéo, et là c'est valable pour les serious games comme pour les jeux vidéo classiques, les règles du jeu, donc tout ce qui va être le game design, le gameplay, c'est les premiers éléments qu'un joueur apprend. Et ça, c'est vraiment important pour nous. C'est pour ça qu'on construit notre gameplay en fonction de l'objectif. C'est parce que notre gameplay doit véhiculer déjà, lui, le message. Puisque c'est la première chose que le joueur va apprendre, c'est-à-dire que dans un jeu classique, si j'appuie sur avant, j'avance. Si j'ai un obstacle, je peux le contourner ou sauter par-dessus. Toutes ces règles-là qu'il va intégrer, c'est vraiment les premières choses qu'il va s'approprier. Et donc, tant qu'à faire dans le cadre d'un serious game, qu'elle soit utile, quoi. Qu'il passe pas d'abord du temps à apprendre comment fonctionne le jeu pour ensuite s'attaquer au message, mais bien simplement le fait de jouer et d'apprendre à jouer puisse lui transmettre un message. Tout ça vu, on a un peu mélangé tout ça, on s'est dit comment on peut arriver faire passer des notions qui vont permettre d'influer ou en tout cas de faire comprendre l'importance d'avoir un bon comportement Et donc le savoir-être aux joueurs nous ont amené à créer ce qu'on a appelé le message d'usage dans le cadre des jeux, des serious games. Pour ça, on va partir un peu aussi dans le cadre du jeu vidéo classique. Le message d'usage, l'idée, ça va être de dire que le fait de jouer au jeu, et non pas simplement ce qui va se passer dans le jeu, mais bien l'action de jouer, va apporter quelque chose aux joueurs. Que ça soit, dans le cadre du jeu classique, c'est des émotions. Dans le cadre du serious game, ça peut être des émotions qui font que c'est un événement marquant et donc potentiellement que le message va être mieux intégré du fait que la séquence de jeu et le temps qu'il va passer sur le jeu était un moment marquant, mais également tout simplement du savoir, de la remise en question. C'est des points qui nous ont été apportés par des clients qui avaient des besoins de faire apprendre à leur staff à se remettre en question et qui voulaient le faire par un serious game. On s'est beaucoup appuyé, puisqu'on est aussi des joueurs, sur un jeu qui est sorti qui s'appelle Spec Ops The Line, qui a la particularité d'interroger le joueur sur ses pratiques et ses valeurs morales. C'est-à-dire que c'est un jeu de tir, comme on en connaît tous. Il y en a certains qui ont été cités, notamment Call of Duty. Je maintiens que 6 ans, c'est quand même jeune, Julien, pour jouer à Call of Duty. Donc, sur Spec Ops The Line, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive dans le jeu, on est un soldat américain, on est censé venir sauver des milliers de gens, et du coup, pour en sauver des milliers, on va en trucider des centaines de milliers. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, qui commence de manière très classique, c'est qu'au fur et à mesure de la partie et de l'histoire, peu à peu, le jeu va remettre en cause justement l'activité de jouer à des jeux violents. C'est-à-dire qu'elle va interroger le joueur, elle va interroger le joueur sur ses propres pratiques. Il va aussi interroger le joueur sur les conséquences de ses actes, c'est-à-dire qu'il va mettre le joueur face à des choix moraux, ne va pas le guider, ne va pas lui donner d'indices sur lequel il va devoir suivre, et va simplement lui montrer les conséquences de ses actes, notamment par rapport à des civils qu'il est censé venir sauver mais qui deviennent agressifs envers lui. Est-ce qu'il va essayer de les éviter? Est-ce qu'il va les tuer, etc.? Il y a énormément de situations comme ça qui mettent réellement en jeu les valeurs morales du joueur et non pas seulement de l'avatar. J'accélère un petit peu. Du coup, ça nous a amené à dire que dans le serious game, on devait pouvoir être capable de faire ça. On devait pouvoir être capable d'utiliser toutes ces spécificités du jeu vidéo que certains jeux commencent à utiliser aujourd'hui dans le serious game, et pas non attendre 10 ans, 15 ans que tous les jeux l'utilisent pour que le serious game s'y mette enfin. Donc de ça, on a tiré trois points essentiels qui sont des outils, à savoir que ça ne marche pas pour toutes les problématiques toutes les problématiques de formation, d'éducation thérapeutique. Ça marche pour certaines problématiques et elles peuvent être intéressantes dans certains cas, il faut savoir les utiliser. Donc il y a déjà revalorisé la narration dans le cadre des comportements, ça va être quelque chose d'assez important, c'est vraiment appuyer sur l'histoire, sur la scénarisation, parce que c'est elle qui va créer justement l'émotion, les dilemmes, les choix moraux, les conséquences des actes du joueur. Ça permet de mettre en perspective, d'avoir un retour critique sur ses propres actions de manière plus intense du fait qu'il y a une scénarisation qui va impliquer le joueur. Ensuite, changer les règles du jeu. Il y a des règles dans les jeux, d'une manière générale, qui sont communément admises, qui vont être, par exemple, il ne faut jamais laisser le joueur choisir entre le mauvais et le pire. Il faut toujours qu'il y ait un bon choix, un mauvais choix. Ça, ce qu'on dit, ce qu'on a tiré de ce que Spec Ops The Line fait et ce que nous, on commence à faire aussi dans nos jeux, c'est dire que non, il y a des fois, le joueur doit faire un mauvais choix. Il va choisir entre un mauvais choix et un mauvais choix, mais ce mauvais choix aura un sens parce que c'est ce qui lui permettra après de comprendre les conséquences de ses actes. Le résultat d'un choix doit être prévisible? Non aussi. C'est-à-dire que dans les jeux en général, un joueur va arriver dans un serious game, même d'une manière générale, il sait ce qu'il doit répondre. Des serious games comme ça, il y en a plein où on nous dit voilà, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut manger le soir avant d'aller se coucher? On a des hamburgers, des frites et une salade légère. On sait très bien qu'il faut répondre la salade légère. C'est pas pour ça que le soir, quand je vais arriver, je vais manger une salade chez moi, je vais aller me prendre un kebab puisque j'ai la flemme de cuisiner comme tout le monde. Le joueur doit être récompensé ou puni, c'est pareil, c'est quelque chose de très ancré. La question est, oui, il doit y avoir des conséquences aux actes, mais ils ne doivent pas forcément apparaître comme des récompenses ou des punitions. Ils doivent être juste des constats que le joueur va pouvoir faire et à lui après de les analyser. C'est en détournant ces règles qu'en fait on arrive vraiment à sortir le joueur de ses habitudes et de sa zone de confort, et donc justement être beaucoup plus impactant sur le message qu'on souhaite faire passer. Et enfin, le dernier point qu'on souhaite utiliser et qu'on commence à utiliser, c'est la dissonance ludonarrative. Désolé pour le terme un peu barbare. L'idée, c'est de dire qu'il y a beaucoup de jeux où il y a une différence entre ce qu'on demande au joueur de faire dans le jeu et ce qu'on lui demande de faire dans la narration. L'exemple de Spec Ops, c'est « je viens sauver plein de gens », ça c'est la narration. Dans le gameplay, je tue plein de gens pour sauver plein de gens. Et ça peut créer une distance. L'intérêt d'en prendre conscience et de l'utiliser, c'est que on va pouvoir mettre le joueur face à des contradictions par rapport à ses propres comportements. En mettant en scène des comportements et en lui faisant comprendre que dans le cadre de la narration, ses comportements sont anormaux, si on l'utilise correctement, c'est plus quelque chose qui va détacher le joueur de l'avatar, mais c'est au contraire quelque chose qui va le questionner. Du coup, l'idée, c'est d'arriver, je vais faire très vite, d'arriver sur des serious games, nouvelle génération entre guillemets, un peu comme des jeux de nouvelle génération, mais qui en tout cas vont vraiment avoir deux niveaux de lecture, à savoir d'une part les messages directs, ceux qui sont donnés de manière ponctuelle dans le jeu et via le gameplay, mais aussi le message d'usage qui va lui être quelque chose de plus global et qui va a posteriori permettre au joueur de revenir sur ses actions, de questionner ses comportements, ses habitudes et ses valeurs. Je vais peut-être zapper un peu l'importance du public, je pense qu'il y a d'autres présentations, mais c'était juste pour faire un point, c'est que dans le cadre des serious games d'une manière générale, mais surtout des messages d'usage, c'est très important de bien se concentrer, savoir à qui on va s'adresser, parce que le message d'usage va utiliser justement toutes les composantes du public à qui, que l'on cible pour être le plus efficace possible. Surtout, il doit être pris aussi en compte dans la production. On a beaucoup de serious games où on s'aperçoit qu'en fait, les commanditaires vont au final donner leur avis énormément et puis finalement oublier complètement la cible de base. Donc, c'est vraiment important que la cible soit prise en compte, au moins pendant les tests utilisateurs, parce qu'on a eu, nous, des exemples où c'était les commanditaires qui testaient, ils oubliaient de faire tester aux personnes cibles avant de le lancer. C'était problématique. Juste quelques exemples pour finir de ce sur quoi on travaille actuellement. On travaille beaucoup sur la BD interactive, et notamment sur une, je peux pas trop vous en parler, on est encore sous clause de confidentialité. Elle devra sortir avant la fin de l'année. C'est une problématique santé, justement. L'idée, là, c'est de prendre en charge un parcours de coin et de faire comprendre à tous les acteurs l'importance de bien respecter les protocoles à leur niveau pour que l'ensemble du parcours de soins se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le bien du patient. Et ça va vraiment du domicile du patient à la prise en charge derrière à l'hôpital et aux urgences. Pour ça, donc, on met en place une BD interactive, ce qui nous permet d'avoir un niveau de scénarisation assez important, avec des événements intercurrents, des conséquences sur les actes, et jamais une conséquence négative tout de suite, des choix qui à un moment paraissent justement pas évidents et dont on s'aperçoit qu'ils ont causé une perte de temps qu'après. Et ça oblige le joueur à remettre en question son parcours précédent. On lui donne pas les clés pour arriver du premier coup à la fin correctement. Secret de la marrante, c'est celui dont je parlais donc avec le CH de Montreuil sur les problématiques d'hygiène, où là ça a été surtout intéressant pour la définition du public. Et enfin, un autre exemple, un dernier de message d'usage qu'on a proposé, où justement on voit que le message d'usage c'était se remettre en question, mais ce qui n'empêchait pas d'avoir des objectifs pédagogiques plus précis au niveau des différentes séquences du jeu. C'était un serious game pour des managers justement qui souhaitaient, enfin dont la direction voulait qu'ils apprennent un peu à questionner leurs choix. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop obscur. Et voilà, si vous avez des questions après.
Non, au pire, on vous enlèvera des. Au pire, on enlèvera des points de vie pour la finale. Merci. C'est vrai que c'était extrêmement intéressant et relié, entre autres, à quelques-uns des éléments que tout à l'heure Michael nous a évoqués.